I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Les histoires du crime. Matteo Ferrux. Aujourd'hui, dans les histoires du crime, un hors-série exceptionnel pour clôturer l'affaire Angélique Dumay. Je vous invite par ailleurs, avant d'écouter ce hors-série, d'aller écouter la série d'épisodes autour de cette affaire pour mieux comprendre. Pour débriefer cette histoire, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Muriel Bélier-Cante. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Compiègne, diplômée de criminologie, on en reparlera tout à l'heure, mais vous êtes surtout l'avocate de la famille d'Angélique et l'auteur de ce fabuleux ouvrage « Angélique, l'empreinte d'une vie » édité aux éditions du Panthéon, sur lequel je me suis fortement appuyé pour écrire cette histoire. Avec vous, j'ai le plaisir également d'accueillir Marie-Céline Lavris.
Lavris, tout à fait. Bonjour, monsieur.
Bonjour. Vous êtes la procureure de la République du tribunal judiciaire de Compiègne.
Tout à fait.
Et vous avez décidé de faire des violences intrafamiliales l'un de vos principaux combats. On parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure de votre métier. Et puis, évidemment, vous pouvez intervenir si vous le souhaitez tout au long de cet entretien, si vous souhaitez préciser des choses. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Alors, Muriel, en écoutant cette histoire, nos auditeurs ont peut-être pu le percevoir, mais vous avez été très impliquée dans l'affaire Angélique. Pourquoi avoir souhaité écrire un livre ?
Alors, j'ai surtout souhaité écrire un livre pour livrer un témoignage du combat qui avait été le nôtre pendant plus de 15 ans pour retrouver l'assassin d'Angélique.
Quand les parents d'Angélique arrivent dans votre bureau, qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, c'est le papa d'Angélique qui est arrivé le premier et je l'ai surtout beaucoup écouté parce que j'avais pas grand-chose comme élément d'information et je lui ai dit que bien évidemment j'acceptais de le représenter et que j'allais immédiatement prendre contact avec le procureur de la République de Compiègne pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui s'était passé.
Alors dans ce livre, on le sent dès les prémices de l'affaire que vous critiquez le fait qu'à l'époque la police n'accompagnait pas assez les victimes et ne prenait pas assez de précautions face aux proches des victimes. En résulte par exemple cette situation où Patrick, le père d'Angélique, souhaite savoir quand il pourra récupérer sa fille pour les funérailles. Ola, pas avant mercredi, pourquoi ? Elle est très abîmée. Réponse du policier, non, mais c'est à cause de l'autopsie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'axe de l'accompagnement aux victimes s'est amélioré ?
Alors, il s'est amélioré. Maintenant, il est encore loin d'être parfait. Notamment, alors c'est aussi une question de matériel hein, et de difficulté d'espace éventuellement, de gestion, mais je prends pour exemple que lorsque des victimes comme les parents d'Angélique arrivent au sein d'un commissariat de police, ils se retrouvent dans une salle où il n'y a absolument pas la possibilité de les isoler, de les accompagner. Je crois que ça n'a toujours pas été mise en place, en tout cas aujourd'hui.
Pendant tout le long de cette histoire, on parle énormément de Marie-Pierre, donc la maman d'Angélique, qui a beaucoup été présente dans ce combat. D'ailleurs, c'est celle qui a mené en fait ce combat pour la vérité. Mais alors, on entend moins parler du papa d'Angélique. Comment il vit tout ça ?
Alors, c'est un homme qui est extrêmement pudique. Qui a vécu de façon très très douloureuse toute cette histoire. Et en fait, chacun gère le deuil, la perte, l'absence de façon différente et en fonction de sa personnalité. Marie-Pierre, elle avait besoin de se lancer dans un combat pour tenir debout. Patrick, il avait plutôt besoin de rester à l'écart pour panser ses blessures.
Oui, parce que j'ai cru comprendre que sur les premières semaines, donc Marie-Pierre n'était pas vraiment en état de suivre un petit peu.
C'est exactement ça.
Ouais, on peut comprendre.
C'est Patrick hein, qui a été moteur pour, en tout cas, obtenir un accompagnement juridique dans toute cette procédure.
À la fin de votre préface, juste avant de commencer l'histoire, vous citez des chiffres qui donnent le vertige. 19 années d'instruction, 8 magistrats en titre, 26 tomes de procédure et 8250 actes distincts. Pour vous, c'est une procédure qui a été trop longue et trop dense ?
Non, je ne dirais pas ça. Pour moi, le fait de citer ces chiffres, c'était une façon de rendre hommage à la justice, justement. Malgré toutes ces difficultés, eh bien, on a été jusqu'au bout et jusqu'à l'identification de l'assassin d'Angélique. Maintenant, quand on est en train de vivre cette histoire, on a effectivement le sentiment du temps qui passe. Et bien sûr, c'est toujours trop long avant que l'on ait la solution. Quand on se retourne et qu'on voit tout le travail qui a été accompli, qui est considérable, on ne peut que tirer un coup de chapeau aux enquêteurs et aux magistrats.
Alors, on parlait de justice, justement, donc je me tourne vers vous, Madame la procureure. Vous êtes donc la représentante du ministère public près le tribunal judiciaire et par définition donc un magistrat. Quelle est la différence entre un juge et un procureur ?
Alors, nous sommes juges et procureurs, tous les deux des magistrats, on fait partie du même corps de la magistrature. Nous pouvons passer du poste de procureur au poste de juge au cours de notre carrière de magistrat. Et ce qui nous différencie, c'est l'autorité, enfin l'objet même de cette autorité, l'autorité judiciaire. Le juge est une autorité de jugement, alors que le ministère public, le parquet, le procureur de la République est une autorité de poursuite. La différence aussi, c'est que en tant qu'autorité de poursuite, le procureur de la République et ses substituts, ses vice-procureurs, l'équipe du parquet, on va dire, vont avoir affaire à toutes ces enquêtes, vont suivre ces enquêtes, donner des directions d'enquête aux enquêteurs, donc suivre vraiment les procédures pour orienter ensuite ces dernières, soit parce qu'on n'arrive pas à identifier l'auteur par un classement sans suite, ou au contraire, si on arrive à identifier l'auteur et que l'infraction est constituée, par une action de poursuite, soit devant le tribunal correctionnel, soit par la saisine d'un juge d'instruction, comme dans l'affaire d'Angélique, avec ensuite éventuellement une audience aux assises. Nous avons cette possibilité de poursuivre et de suivre toutes ces procédures, finalement, du début jusqu'à la fin, même jusqu'à l'exécution de la peine. Donc, en fait, le ministère public intervient à tous les niveaux de la procédure pénale, jusqu'à la fin de cette dernière, jusqu'à l'exécution des peines, l'incarcération et ensuite l'aménagement de cette peine par le juge d'application des peines.
Et aujourd'hui, au tribunal de Compiègne, combien d'affaires judiciaires traitez-vous en moyenne par an ?
Alors, au parquet, on est à peu près à 13 000 procédures par an, en moyenne. Il faut savoir que parmi ces 13 000 procédures, il y en a effectivement qui sont des procédures qu'on appelle poursuivables, c'est-à-dire qu'on connaît déjà, on a un auteur identifié ou en tous les cas des personnes qui sont suspectées d'avoir commis une infraction. Mais parmi ces 13 000 procédures, on a énormément de procédures aussi qui vont être classées sans suite parce que l'auteur ne sera pas identifié. Mmh. Ou alors parce que l'infraction n'est pas constituée. Si vous déposez plainte pour une affaire qui vous semble vous relever du pénal, vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas juriste et c'est pas ce qu'on demande effectivement aux citoyens. Hein. En revanche, moi, à la lecture de cette procédure, mes collègues ou moi-même, on verra qu'on est plutôt sur un contentieux civil ou un contentieux qui ne relève pas forcément du pénal. Donc on classera cette procédure en orientant la personne vers une autre instance judiciaire.
Maître Bélier, je reviens vers vous. Un autre détail m'a sauté aux yeux à la rédaction de ce récit, donc à la lecture de votre livre. Vous semblez avoir fait face tout au long de votre combat à des personnalités qui semblaient être désintéressées en fait de votre combat. Donc ça peut éventuellement pousser à être démotivé en fait, à ne pas continuer ce combat. Comment vous avez réussi à maintenir la motivation auprès de Marie-Pierre pour continuer ce combat absolument ?
Alors, moi, déjà, par principe, à partir du moment où on met des obstacles sur ma route, je n'ai qu'une envie, c'est de faire en sorte de les passer. Donc, nous savions que notre cause était juste, nous avions un objectif, et on s'est dit qu'on n'avait rien à s'interdire. Ça a été notre mot d'ordre pendant toutes ces années. Nous n'allons rien nous interdire. Tout ce qu'il fallait mettre en place, même si ça paraissait osé, même si ça paraissait impossible, eh bien, on y allait.
Et quelle a été vraiment la rencontre qui vous a semblé la plus désintéressée, vraiment la plus éloignée de ce que vous cherchiez ?
Certains magistrats instructeurs, certains procureurs aussi, puisque donc il y en a eu sur la masse, il y a eu des gens formidables, mais il y a aussi des gens pour lesquels ça a été un petit peu plus compliqué, et puis certains enquêteurs aussi.
L'affaire Angélique a donc été l'affaire qui a porté la création, en tout cas en France, d'un fichier des empreintes génétiques. Ça, c'est la sortie du combat qui a donné ça. Vous avez milité donc avec la famille d'Angélique pour la création. Et quand un premier décret est sorti, vous apprenez que ce fichier ne concernait en réalité que les personnes condamnées pour des crimes sur mineurs.
Alors en fait, le combat, il a d'abord mené sur la création du fichier, dans le sens où une loi, puisque nous n'étions pas les seuls à militer pour un fichier, et on avait eu l'affaire Guy Georges, hein, qui avait quand même énormément poussé aussi à expliciter le fait qu'il fallait absolument qu'on ait cet outil. Mais en fait, la difficulté qu'on a eue, c'est que avant même de s'intéresser au décret d'application, on ne l'a pas eu ce décret. C'est-à-dire qu'on a eu une loi qui a été votée, mais on a eu un décret d'application pour lequel il a fallu qu'on se batte, en fait. Et c'est là qu'a été notre combat. C'est que pendant 2 ans, nous n'avons pas lâché jusqu'à ce qu'on obtienne ce décret d'application. Et ce n'est qu'une fois que ce décret d'application a été adopté qu'on a pu commencer à militer pour une extension du fichier. On a vraiment eu une action militante, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement des filé avec une pancarte. On a organisé des conférences pour expliquer aux politiques que nous rencontrions ce que c'était que l'ADN, ce que c'était que l'extraction de l'ADN à des fins judiciaires. Donc on s'est renseigné, on a beaucoup lu, on a beaucoup appris pour pouvoir transmettre à notre tour. Donc vraiment cette action, elle a été à la fois avec des moments assez spectaculaires parce qu'il fallait qu'on soit visible dans les médias, mais ça a été également un petit travail de fourmi, c'est-à-dire que chaque personne que l'on rencontrait, on essayait de la convaincre pour qu'à son tour, eh bien, elle puisse déposer les petites graines.
Oui, parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, tout ce qui est criminologie n'existait quasiment pas, enfin était très peu développé par rapport à d'autres pays.
La victimologie, en fait.
La victimologie.
La criminologie était déjà développée. On avait déjà un institut de criminologie. On n'en avait qu'un seul, mais enfin, il avait le mérite d'exister. Oui. En revanche, la victimologie n'existait quasiment pas. La police scientifique et technique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'en était qu'à ses balbutiements. Ça a été notamment le grand drame de ce dossier. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de gel de la scène de crime, il n'y a pas eu du tout...
Oui, ça vous le dites au tout début, vraiment, les policiers arrivaient, roulaient comme ça sur la scène de crime.
Mais j'ai même eu des journalistes qui m'ont dit qu'ils pouvaient quasiment toucher le corps. Ouais. Ils n'ont pas pris des photos parce qu'au dernier moment, quand même, ils ont eu un instinct... mais s'ils avaient voulu, ils pouvaient prendre des photos du cadavre. Enfin, c'est quelque chose qui est inimaginable, heureusement, aujourd'hui. Et c'était en 96, il n'y a pas si longtemps que ça quand même.
Du coup, quelle a été la première réaction que vous avez eue quand vous avez appris donc que ce fichier, à la base, était appliqué que pour les fameux crimes effectués sur les mineurs ? Parce que du coup, Angélique n'était pas concernée.
Oui, alors, on ne va pas reprendre toute la genèse, mais ça a été encore plus restreint, parce que c'était qu'aux personnes déjà condamnées, etc. Mmh. Ce que j'ai ressenti, une immense frustration.
Une immense frustration.
Oui, comment dire ? Le ressenti que finalement, on nous donnait un petit os à ronger en nous disant voilà, vous voyez, on l'a fait, alors que ce n'était pas du tout ce que l'on souhaitait et qu'on savait très bien que ça, ce n'était pas un outil qui allait pouvoir servir à qui que ce soit.
Vous pouvez se dire donc du coup qu'à l'époque, l'idée de créer un fichier des empreintes génétiques est plutôt unique et surprend, on a l'impression, les pouvoirs publics. Mais pourtant, ce genre de fichier est très développé à l'international.
Très développé à l'international et surtout, c'est ce que j'expliquais lorsqu'on me faisait valoir que c'était une atteinte extrêmement importante à la liberté individuelle, j'expliquais que de toute façon, des fichiers occultes, il y en avait partout. Alors pas à base d'ADN, mais sur d'autres bases d'informations autrement plus attentatoire à la liberté.
Oui, surtout quand on pense à tout ce qu'il y a aujourd'hui avec le numérique.
On ne parle même plus aujourd'hui.
Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, donc, ce fichier est connu sous le nom de FNAEG, Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, ça on le répète souvent pendant l'histoire. Et cette question, elle est plus adressée à Madame la procureure. Dans quel cadre peut-on être fiché au FNAEG? Et par exemple, est-ce que moi, en tant que citoyen modèle, je le promets, je n'ai aucun casier judiciaire, est-ce que je suis inscrit au FNAEG?
Alors, non, vous n'êtes pas inscrit en FNAEG si vous êtes un citoyen qui n'a pas commis d'infraction, qui rentre dans la liste des infractions qui sont prévues par le texte.
Alors d'ailleurs, on peut peut-être le rappeler
brièvement. La liste est effectivement maintenant très longue et grâce justement au travail et à cette action militante, il faut le reconnaître, qui a été menée depuis des années par plusieurs acteurs. Et c'est en ce sens, je pense d'ailleurs, que l'action a pu prospérer. C'est parce que vous avez des policiers, vous avez des avocats, vous avez des juges qui sont montés au créneau pour militer justement en faveur de la création de ce fichier, qui avait été vécu à l'époque comme étant liberticide parce que on voyait les choses avec un prisme et un regard qui est différent d'aujourd'hui, en se disant que on allait tous être fichés à un moment donné. Le fichier a été créé en 1998, c'est ça, le 17 juin 1998, et à l'origine, seule une certaine catégorie d'infractions était visée. Si vous aviez été condamné pour cette liste d'infractions qui était essentiellement des infractions sexuelles et ensuite élargie sur les infractions commises sur les mineurs, eh bien, vous étiez condamné, vous étiez fiché. Désormais, le fichier est un fichier de police judiciaire. Son but est de faire des rapprochements. Donc, son objectif va répondre à un cadre juridique bien strict. C'est-à-dire que vous allez pouvoir comparer, grâce à ce fichier, des empreintes génétiques qui sont enregistrées dans ce fichier parce que vous avez déjà été condamné ou parce que vous êtes suspecté d'avoir commis des infractions qui rentrent dans cette fameuse liste. Et on va pouvoir les comparer avec des traces qui ont été prélevées sur des scènes de crime ou des lieux d'infraction. Maintenant, cette liste, elle n'est plus du tout limitée aux crimes sexuels et aux crimes commis sur des enfants. On a une liste qui est vraiment très importante, je ne pourrais pas vous la citer, mais c'est vrai que désormais, c'est assez élargi. Il y a à peu près 6 millions de profils, qui sont enregistrés au FNAEG, c'est énorme, mais parmi ces profils-là, il faut voir que vous avez des personnes qui sont condamnées, qui, elles, resteront dans le fichier. Des traces, donc des éléments qui sont prélevés sur les scènes d'infraction ou des personnes disparues, des personnes dont on est sans nouvelles et qui vont être enregistrées au FNAEG. Et vous avez aussi des individus qui sont soupçonnés, qui restent dans la base de données pendant un certain temps jusqu'à ce que les traces soient effacées par l'action du magistrat. Voilà, vous avez la possibilité d'effacer vos données au sein du FNAEG dès lors que vous avez été suspecté, puis finalement, par exemple, acquitté, oui, ou alors un classement sans suite. Voilà.
Par exemple, si je dois être fiché au FNAEG et que je refuse de m'y soumettre, admettons, je m'expose, je suppose, à des sanctions, parce que c'est quand même prévu.
C'est une autre infraction.
Qu'est-ce que prévoit la loi à ce moment-là?
Alors la loi a créé justement une infraction particulière qui est le refus de se soumettre aux empreintes génétiques ou aux empreintes même papillaires, les empreintes digitales. Dès lors que vous refusez, c'est une infraction. Alors je ne sais plus quelle est effectivement la peine encourue, il aurait fallu me poser la question avant et j'aurais pu faire la vérification. Mais c'est une infraction autonome qui s'ajoute. C'est comme le refus par exemple de donner, de donner son code de déverrouillage de téléphone.
Oui.
C'est une infraction autonome. Donc nous pouvons vous poursuivre si jamais vous êtes placé en garde à vue pour une infraction grave, on va dire des faits de viol par exemple. Non seulement vous serez soumis à des empreintes génétiques pour pouvoir faire rentrer votre empreinte génétique dans la base du FNAEG pour déjà pouvoir permettre cette entrée-là et éventuellement faire des rapprochements avec des crimes qui n'ont pas été résolus, mais dont on a prélevé une trace sur la scène et qui permettrait de faire des éléments de comparaison. Vous serez aussi fiché au FAED, qui est le fichier automatisé des empreintes digitales. Vous aurez également votre photographie qui sera enregistrée dans le traitement automatisé judiciaire, donc le TAJ. Et vous aurez également peut-être l'exploitation de votre téléphone qui vous sera demandée pendant votre garde à vue. Si à chaque fois vous refusez de vous soumettre à ce type de vérification-là, c'est d'autant d'infractions qui seront
Et ça ne fait que rajouter
retenues
sur le dossier, quoi.
Tout à fait.
Le tribunal judiciaire de Compiègne a dû traiter, donc, à l'époque, l'affaire d'Angélique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous recevez encore des dossiers similaires?
Alors moi, depuis que je suis en poste au tribunal judiciaire de Compiègne, donc septembre 2020, je n'ai pas reçu de dossier similaire. Fort heureusement, je touche du bois. Il faut savoir également que pour ce type de dossier-là assez particulier, nous avons un pôle criminel qui est à Senlis, donc c'est le tribunal judiciaire de Senlis, qui va ensuite gérer les informations judiciaires. Donc les informations judiciaires, c'est lorsque le parquet se dessaisit au profit d'un juge d'instruction qui va finalement mener l'enquête avec des policiers ou des gendarmes qu'il va lui-même désigner. Par la suite, vous avez aussi maintenant un pôle qui est le pôle des cold cases qui a été créé récemment à Nanterre, qui permet aussi sur des dossiers sur lesquels on n'arrive pas à retrouver l'auteur, mais où la magistrature et puis le barreau, mais également évidemment les parties civiles veulent absolument faire avancer ce dossier, des dossiers criminels. Vous avez un ce pôle des cold cases, des affaires non résolues, qui a été créé donc à Nanterre. Vous avez un pôle de juge d'instruction qui a été créé récemment. Donc ce sont maintenant, je pense qu'on a pris conscience, et c'est tout dépend d'une volonté politique, hein, il faut quand même le reconnaître, hein. Sans volonté politique, on peut s'égosiller et crier et demander et réclamer, on n'a pas forcément gain de cause. Et force est de constater que maintenant, effectivement, on avance de plus en plus et de mieux en mieux sur ces affaires-là, ces affaires sensibles, ces affaires graves, avec maintenant des outils qui sont utiles en tous les cas et qui méritaient une création peut-être plus récente, mais c'était pas le moment, comme on dit souvent, c'est une question d'époque.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Et il faut rappeler aussi donc qu'à l'époque de l'affaire Angélique, il y avait aussi une cellule de cold case à Lille.
Alors, en fait, c'est le dossier d'Angélique qui a créé la première cellule de cold case en France, qui était donc sous l'égide d'un commandant de police qui était extrêmement impliqué et qui a importé en fait en France les techniques d'investigation américaines pour justement permettre la résolution du crime qui sont des crimes commis il y a un certain temps et pour lesquels on n'a pas encore de réponse. Et donc la première cellule de cold case en France a été la cellule Angélique. Effectivement, elle a été à Lille. Je rejoins tout à fait Madame Lavrit. En fait, c'était une question politique, hein, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui a souhaité, au terme donc d'une scène que je raconte dans le livre, qui a pris la décision de créer cette cellule. Ensuite, cette cellule, pour que justement ce qui avait été mis en place dans cette cellule serve à d'autres, a été étendu à d'autres affaires. Et puis aujourd'hui, on a une cellule nationale. Et ça, c'est aussi...
Petite victoire.
Une grande avancée.
Alors, une scène vous marque aussi, en tout cas, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, c'est la scène de la reconstitution qui se déroule à Compiègne un soir, quand Fernando Gomez Ferreira, qui est à l'époque le suspect numéro 1 de l'affaire, est-ce que vous pouvez nous raconter cette scène qui est quand même assez unique?
C'est un moment unique, hein, même dans l'histoire d'un avocat, je vous l'avoue. Se retrouver dans la salle principale du tribunal, avec des hommes qui sont cagoulés, qui sont vêtus de noir, et où on ne voit que les yeux, et assister à la mise en place du process. Et puis ensuite, les voir partout où on allait, ils étaient sur les toits, ils descendaient en rappel sur les immeubles. Enfin bon, oui, on a l'impression qu'on est en train de tourner un James Bond, en fait. Hein.
Et on vous a d'ailleurs proposé un gilet pare-balles.
Oui.
Et vous dites que vous l'avez refusé et que donc, par principe, l'avocat de Fernando Gomes Ferreira, à l'époque, avait aussi refusé.
Alors, il l'a refusé en me disant, je te préviens, je reste près de toi, comme ça, si jamais on me tire dessus, tu en prendras aussi.
Alors, au-delà de votre engagement professionnel, ça, je pense que c'est indéniable envers la famille d'Angélique, vous avez également été très présente personnellement auprès notamment de Marie-Pierre. Et par exemple, moi, j'ai un exemple, c'est quand Marie-Pierre, alors invitée à comparaître devant un nouveau juge, a les yeux rivés sur un scellé qui contenait un médaillon, le médaillon que portait Angélique le soir de sa mort. Et le juge a voulu outrepasser la procédure, lui rendre. Et avec la greffière, vous aviez dit non, monsieur le juge, on peut pas faire comme ça. Et vous aviez bataillé après pour essayer de l'avoir. Pourquoi l'avoir fait ?
Pour essayer de récupérer le médaillon, oui. C'est ça que vous voulez dire ? Ben simplement pour restituer ce bien, une fois que l'affaire était clôturée, qui était extrêmement important pour la maman d'Angélique, bien sûr.
Et ça a été une bataille ? C'est ce que vous écrivez ?
Oui, ça a été une bataille, parce que c'est, là, par contre, c'est très administratif.
Oui, hein, donc, ouais, c'est très...
Mais c'est vrai que, dans mon monde à moi, j'ai souvent l'impression qu'il faut que je me batte tout le temps pour...
Alors, d'ailleurs, la question des scellés, Madame la procureure, elle est souvent un peu mal comprise. Comment ça se passe une fois que le dossier est fermé, on rend les scellés pendant que l'affaire est ouverte. Comment ça fonctionne exactement, cette histoire de scellés ? Parce que c'est vrai que souvent, c'est très mal compris.
Et pour cause. C'est très mal compris parce que c'est assez complexe. Et comme l'a dit Maître Bélier, et comme elle l'écrit et comme elle le relate encore aujourd'hui, vous avez une affaire qui a duré suffisamment longtemps, ce qui fait que vous avez plusieurs magistrats qui ont eu à connaître de cette affaire. Puis ensuite, il y a la phase de jugement. En principe, là aussi, les pratiques et les textes ont beaucoup évolué. Désormais, on évite d'avoir des scellés finalement dans les juridictions, pour une simple et bonne raison de sécurité, mais aussi parce que risque de vol et de perte, et surtout de ne plus avoir cette traçabilité des scellés liés à un dossier. Par exemple, quand vous avez un pôle criminel comme à Senlis, alors que moi j'ai ouvert le dossier à Compiègne, les scellés doivent suivre en principe le dossier. Et ensuite, ce dossier, il va aux assises. Hein, donc vous avez un accusé qui sera jugé par la cour d'assises à Beauvais ou s'il y a un appel, ça peut être à Amiens ou à Laon. Et donc les scellés sont censés suivre là aussi les dossiers. Et les juridictions de jugement, donc soit le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, sont censés se prononcer sur le sort des scellés. Évidemment, quand vous avez énormément de scellés, notamment dans une affaire criminelle, il est particulièrement délicat pour les magistrats du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises, de se prononcer sur le sort de tous les scellés. Donc en général, les scellés principaux vont être visés, on va dire, ordonne la confiscation des scellés. Confiscation d'un scellé, ça veut dire que le parquet reprend, donc le procureur de la République reprend la main sur la gestion des scellés. Et parmi tous ces scellés, sur une affaire, il va falloir ensuite que le procureur de la République, qui ne connaît pas forcément l'affaire dans sa totalité, va devoir se prononcer sur des demandes de restitution ou se prononcer sur une destruction des scellés. Demande de restitution, c'est assez simple, puisqu'en général, c'est une demande qui émane de l'avocat des victimes ou des victimes elles-mêmes, en disant « je veux récupérer par exemple ce fameux médaillon ». Et donc là, c'est assez simple, d'une certaine manière, le procureur de la République va dire « mais bien sûr, il n'y a aucune raison que ce scellé ne soit pas restitué aux parties civiles, aux victimes, sauf qu'il faut le retrouver ». Et là, c'est une autre paire de manches, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, il va falloir retrouver le dossier, savoir où il est allé, et est-ce que le scellé a bien suivi le dossier en temps voulu ? Et est-ce qu'il est bien reparti avec le dossier une fois que celui-ci est clôturé ? Et quand vous avez finalement une multiplication de juridictions qui sont compétentes pour une même affaire, avec des juges différents qui vont se succéder et qui ne font pas partie de la même juridiction, pas forcément Compiègne, c'est d'autant plus compliqué. Voilà. Mais sinon, les choses maintenant sont un peu plus sereines. Vous avez la gestion des scellés qui est opérée de manière informatisée, avec là un suivi qui est un peu plus régulier, un peu plus resserré.
On arrive à la scène fatidique où Marie-Pierre et Jean apprennent qu'un nom est ressorti au FNAEG. Donc là, vous êtes avec eux. Donc c'est à Senlis. Et le nom de José Méndez Furtado ressort. Et vous apprenez qu'il est mort. Quelle est la première réaction de Marie-Pierre et Jean ? Et vous aussi, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ?
Alors, pour Marie-Pierre et Jean, je pense que la réaction, ça a été la sidération. C'est-à-dire que, vous savez, ce moment où on vous dit quelque chose et puis vous avez l'impression que l'information elle est en train de grimper jusqu'à votre cerveau pour qu'ensuite vous y réfléchissiez, vous l'analysiez. Moi, ma réaction, ça a été de me dire « Ah, mais alors c'est fini ».
Oui, c'était justement la question qui suivait, cette fameuse phrase. Donc, vous êtes dans le centre-ville et vous dites « voilà, c'est fini ». Vous pensez « voilà, c'est fini ».
C'est-à-dire qu'après, on est sortis de là, on était vraiment, tous les trois, on était complètement sonnés. Donc, on s'est dit, moi, je me suis dit « je ne peux pas les laisser repartir comme ça ». Donc, j'ai dit « on va aller boire un verre dans le centre-ville de Senlis ». Qui est très très hospitalier et qui se prête à aller boire un verre d'ailleurs. Bref, et donc on s'est installé, on a eu du mal à parler au début, puis après je me suis dit il faut absolument que je mette des mots, enfin que je les oblige à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et donc c'est là que j'ai dit, ben écoutez, je sais pas ce que vous avez pensé, mais moi voilà ce que j'ai ressenti, c'est fini.
Alors on apprend un petit peu plus tard dans votre livre, une fois que voilà, il y a les présentations qui sont faites, que José Méndez Hurtado est en fait venu plusieurs fois dans votre cabinet pour désigner son défenseur et qu'il est passé aussi plusieurs fois à la caisse de Marie-Pierre quand elle travaillait au supermarché. Est-ce que vous croyez à la coïncidence ou est-ce que vous pensez que c'est un acte volontaire ?
Pour moi, c'est un acte manqué, en fait. Tout Compiègne savait, à l'époque, que j'étais l'avocat de la famille d'Angélique. Il ne se passait pas 6 mois sans qu'il y ait un article dans les journaux.
Oui, ça a été très médiatisé.
Voilà. Tout le monde le savait. Quand on me croisait, on savait que j'avais ce dossier en charge. Je n'imagine pas une seule seconde que ce monsieur soit venu dans ce cabinet demander à être assisté par mon associé par hasard. Ce n'est pas possible. Et puis, quand tu as passé à la caisse de Marie-Pierre, ben, vous connaissez un peu comment est configuré ce supermarché. Vous connaissez le nombre de caisses qui sont ouvertes à chaque fois, avec en plus des hôtesses de caisse qui n'ont pas les mêmes horaires. Là aussi, la coïncidence est vraiment très particulière. Non, je pense que... Vous savez, il y a un adage qui dit qu'un meurtrier revient toujours sur les lieux de son crime. Je pense que d'une certaine manière, c'est un peu de cet ordre-là. Et je crois effectivement, alors là c'est le volet criminologie qui parle, mais je crois que surtout pour des crimes de cet ordre-là, je pense qu'il y a quelque chose au fond du meurtrier qui le pousse quand même peut-être à souhaiter être identifié et à souhaiter être arrêté.
Peut-être des remords ?
Je n'irai pas jusque-là, mais je pense que c'est extrêmement complexe, la manière dont ça fonctionne. Et je pense que ça doit être lourd quand même à porter pendant toutes ces années. Et je pense qu'à un moment donné, également du côté des auteurs, il doit y avoir une envie que ça s'arrête.
Ou alors conserver le lien.
Ça peut être aussi conserver le lien. C'est possible. Mais dans son cas, lui, je ne sais pas. Encore une fois, on n'a malheureusement pas pu avoir suffisamment de données pour analyser sa psychologie, ce qui, moi, m'aurait personnellement beaucoup intéressé pour essayer de... Même si je sais quels sont les ressorts qui l'ont poussé à l'acte la première fois et à l'acte la deuxième fois, enfin, en tout cas, j'en ai une idée. Mais je me demande si c'était pas trop lourd quand même pour lui.
Alors, même si c'est pas le sujet de cet entretien, je voulais quand même le mettre en avant. Madame la procureure, vous avez décidé de faire des violences intrafamiliales votre priorité depuis que vous êtes arrivée au tribunal. Pourquoi ce choix ?
Alors oui, tous les procureurs de la République ont décidé de faire des violences intrafamiliales, de la lutte contre les violences intrafamiliales, une des priorités. Après, comme vous le savez bien, et c'est d'ailleurs pour répondre à votre première question entre la distinction entre les magistrats du siège et les magistrats, enfin les juges et les procureurs de la République, nous, procureurs de la République, nous sommes liés hiérarchiquement au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, qui nous donne des instructions générales. Il ne donne pas d'instructions individuelles sur les dossiers, les choses soient très claires, mais des instructions générales. Les instructions générales, elles sont issues évidemment de la politique du gouvernement. Donc c'est pour ça que parfois, par raccourci intellectuel, on dit que le ministère public, le procureur de la République, il agit pour l'État au nom de l'État. Non, ça c'est le préfet. Nous, on agit pour la société. Mais c'est vrai qu'on a des grandes lignes et avec des instructions du gouvernement qui nous disent, voilà, on veut axer la politique du gouvernement sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et la lutte contre les violences intrafamiliales. Dans ce cadre-là, moi je me suis emparée évidemment, comme tous les autres procureurs de la République, de ces instructions générales et j'ai essayé de les décliner au mieux au niveau local, avec une spécificité peut-être par rapport aux autres, chacun en fonction eh bien, de son partenariat au niveau local, de la délinquance qu'on a sur certains secteurs, en zone police, en zone gendarmerie, en zone urbaine ou en zone rurale, eh bien, on va essayer de trouver des outils pour favoriser justement cette lutte, la renforcer au mieux. Voilà, il s'agit effectivement de quelque chose qui me tient à cœur, des violences intrafamiliales, parce qu'on sait très bien que ça a des répercussions énormes sur les familles et sur la société en général, et comme je suis avocat de la société d'une certaine manière, eh bien, ça me préoccupe d'autant plus, et puis parce que le ressort du parquet de Compiègne est suffisamment, en tous les cas, est adapté pour pouvoir, à mon sens, conduire une politique quasiment sur mesure.
Alors, pour clôturer cet entretien, j'ai deux questions pour vous, Madame Bélier, de la part de Fabienne, donc, qui est une fidèle auditrice qui nous écoute depuis LM dans le Nord. À part l'affaire Angélique, est-ce que d'autres affaires vous ont autant marqué? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez toujours à Angélique?
Alors, je pense toujours à Angélique. Elle est toujours un peu quelque part au fond de moi, d'autant que j'ai gardé une relation, bien évidemment, avec sa famille. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on me parle souvent de l'affaire d'Angélique en me disant « ça a dû être l'affaire de votre vie ». Tous les dossiers que j'ai à traiter, et je traite beaucoup de dossiers, notamment de violences intrafamiliales du côté des enfants, et bien, tous les dossiers me marquent. Et il y a eu ce dossier-là, mais il y en a eu malheureusement beaucoup d'autres. Et quand je pense à mon métier, et quand je pense à ma carrière, et si je ferme les yeux, j'ai plein d'images d'enfants qui défilent sous moi. Voilà.
Ben merci beaucoup à toutes les deux, encore une fois, d'avoir accepté cet échange qui a été constructif et plutôt passionnant. Je rappelle, Maître Bélier, que vous êtes l'autrice du livre « Hommage Angélique, l'empreinte d'une vie » édité aux éditions du Panthéon, mais également autrice d'un avocat disparu, paru aux éditions Monde Futuriste et réédité chez De Coster Éditions, si je ne me trompe pas. Madame le procureur, merci de votre disponibilité. Je rappelle donc que vous êtes la procureure de Compiègne près le tribunal judiciaire de Compiègne. Vous pouvez retrouver cet entretien sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur graphite.net. Je remercie d'ailleurs Radio Graphite qui m'accompagne depuis plus d'un an sur ce projet, notamment Brian, directeur d'antenne, et Léo, la fameuse voix que vous pouvez entendre à chaque début d'épisode. Merci à tous et à bientôt.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.